les protestants, ils sont vraiment cool parce qu'ils ont une lecture beaucoup plus libre que les autres de la morale biblique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de remarques au sujet des protestants, mais moi, ça m'arrive régulièrement lorsqu'on fait de l'évangélisation dans la rue, avec Jonas, par exemple avec Christophe, avec Faustine, on a eu l'occasion d'en faire. D'où vient cette idée? D'où vient cette perception des protestants? Sûrement du fait qu'il y a dans la grande famille des protestants une branche importante qui est plutôt moderniste et libérale, notamment sur les questions de mœurs. Par exemple, une grande union d'églises organise actuellement en France un débat avec l'espoir avoué par certains, en tout cas, d'autoriser dans l'église, dans cette union d'églises, les cérémonies de bénédiction pour les couples homosexuels mariés ou pacsés. Et donc ça tranche un peu avec l'idée qu'on a de la droite catholique bien conservatrice, n'est-ce pas? Normal donc que des gens de l'extérieur trouvent que les protestants ont une lecture très libre de la morale biblique. Chez les croyants, et de plus en plus d'ailleurs chez certains évangéliques, on entend aussi la remarque suivante. Le Dieu de Jésus, c'est pas le Dieu du moralisme rigide de l'Ancien Testament. Vous avez déjà vu circuler ce genre d'idées, entendu circuler ce genre d'idées? Moi, oui, et pas plus tard que cette semaine, dans le cadre d'un débat télévisé organisé entre deux théologiens évangéliques britanniques. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est pas ce que les autres disent. C'est quelle est votre réaction à cette notion de morale biblique? C'est quoi votre réaction à cette notion de morale biblique? Et il y a toutes sortes de réactions possibles en fait. Peut-être que vous, aujourd'hui, ce soir, vous êtes plutôt un tradit. C'est-à-dire que vous êtes très conservateur sur toutes les questions de mœurs. Et donc, vous êtes peut-être ce soir un peu paranoïaque par rapport à ce progressisme qu'on voit un peu partout et qui s'infiltre même dans les églises évangéliques. C'est peut-être votre cas. Ou bien, à l'inverse, vous êtes peut-être plutôt un chrétien dit moderne. Un chrétien moderne. Et du coup, vous êtes plutôt paranoïaque par rapport au légalisme. Vous, ce qui vous fait peur, ce sont surtout ces tradis, justement, qui mettent en avant la morale au détriment de la grâce, la morale au détriment de la liberté en Jésus, la morale au détriment d'une interprétation plus inclusive une interprétation plus inclusive du texte biblique. Ce que vous craignez surtout, vous, en tant que chrétien moderne, c'est qu'on donne l'impression de pouvoir mériter la faveur de Dieu par des performances morales. Et donc on barre le chemin aux gens qui voudraient s'approcher de Dieu. Et qui finalement n'en sont pas capables parce que leur vie n'est pas à la hauteur. Ou peut-être encore que vous êtes ni dans le premier cas ni dans le deuxième, peut-être encore que finalement vous aujourd'hui vous ne vous dites pas vraiment croyant, je ne sais pas. Peut-être que vous ce soir vous êtes finalement encore au stade de l'observation, vous êtes un simple observateur du christianisme. Et peut-être que vous êtes séduit ce soir par le protestantisme en raison de cette réputation plus moderne et libre au niveau de la morale. Peut-être que c'est un truc qui vous branche, ça vous séduit, vous dites ouais, c'est pas mal ça. Mais peut-être qu'à l'inverse, en tant que simple observateur, vous êtes plutôt critique envers le protestantisme, précisément pour cette même raison. Comme j'ai eu l'occasion aussi de l'entendre d'ailleurs en discutant avec les gens. Dieu aime tout le monde. Notre conduite morale n'a pas d'effet sur sa grâce. Ben c'est trop facile alors. On peut faire ce qu'on veut. C'est la porte ouverte à tous les comportements. C'est ridicule, c'est simpliste. Vous voyez? Donc toutes sortes de réactions possibles à cette notion de morale biblique. Quelle est la vôtre? Mais surtout, qu'est-ce qu'il en pense Jésus finalement? Jésus, il en pense quoi? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers le texte qu'on est sur le point de lire. Et d'étudier, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très simple. C'est très simple, c'est peut-être déconcertant, c'est peut-être radical, c'est peut-être même décevant, mais en tout cas, c'est très simple. Jésus appelle les croyants à une intégrité morale surnaturelle. Jésus appelle les croyants à une intégrité morale surnaturelle. Allez, on lit le texte, il s'agit de Matthieu chapitre 5. Je vous signale qu'on est en train d'étudier cet évangile selon Matthieu de manière suivie, de manière textuelle et suivie. Si vous avez raté certaines prédications, vous devriez pouvoir les retrouver sur le site internet de l'Église. Et là, on en est au chapitre 5, verset 17, et je vais lire versets 17 à 48, donc un passage assez long. Jésus est en train de parler ici, il est en train de prêcher en fait. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. » Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raca » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la géhenne du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi je vous dis de ne pas jurer. Ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, s'il te plaît, viens à notre aide maintenant au moment d'étudier ta parole. Notre intelligence est bien limitée, nous ne sommes même pas enclins à recevoir ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous enseigner. Mais change cela, Seigneur, en nous, par ton Saint-Esprit. Rends-nous réceptifs, au contraire, à ta parole, et prêts à la recevoir, à l'accepter, à la croire et à la mettre en pratique. Amen. Vous voyez, Jésus appelle les croyants à une intégrité morale surnaturelle. La première chose qu'on est amené à comprendre ici à travers ce texte, premièrement, versets 17 à 20, c'est que Jésus confirme la validité des exigences morales de l'Ancien Testament. Jésus confirme la validité des exigences morales de l'Ancien Testament. Ce qu'il dit, en fait, au verset 17 à 20 est assez clair, hein. Je n'ai pas besoin d'y revenir très, très longuement. Jésus, dit-il, n'est pas venu abolir l'Ancien Testament, hein, l'expression « la loi et les prophètes » ou « la loi ou les prophètes » désigne pour un auditoire juif désigne l'Ancien Testament. Il n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. Le verbe pour, qui traduit par abolir signifie détruire, défaire, délier, démolir. Il n'est pas venu démolir l'Ancien Testament. Il est venu, dit-il, l'accomplir. On verra dans un moment ce que ça veut dire. Mais on voit ensuite, au verset 18 à 20, que Jésus est en train de penser notamment à la loi morale contenue dans l'Ancien Testament, qui, dit-il, restera valide jusqu'au moindre détail. Elle restera valide, cette loi morale, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Cette loi morale, ces exigences morales de l'Ancien Testament, dit Jésus, demeurent une exigence pour ceux qui veulent suivre Jésus, pour ceux qui veulent faire partie de son royaume, qui veulent faire partie du royaume des cieux, dont, nous le savons, Jésus est le chef, dont Jésus est le roi, on le sait d'après les chapitres qui ont précédé. En fait, le texte ici est en train de répondre à une crainte ou à une objection possible provenant notamment des Juifs, hein, qui constituent donc l'auditoire de Jésus au moment où il parle ici, mais qui constituent aussi les premiers destinataires du texte de Matthieu qui rédige cette biographie de Jésus. Il est en train de répondre à une crainte ou à une objection possible et même probable provenant des Juifs. On pouvait en effet penser que Jésus allait dispenser ceux qui le suivent de se conformer aux exigences morales de l'Ancien Testament. Comme si Jésus voulait démarrer une nouvelle religion. Comme si Jésus finalement et ses disciples étaient les inventeurs d'une nouvelle religion, les fondateurs d'une nouvelle religion. Mais pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout le cas. Jésus a été envoyé par le Dieu qui est lui-même l'auteur de ces fameuses normes morales contenues dans l'Ancien Testament. C'est le même Dieu qui est l'auteur de l'Ancien Testament, en quelque sorte, et qui envoie maintenant Jésus. Imaginez que vous soyez le président de la France et que vous receviez la visite d'un diplomate étranger. Et vous savez pertinemment que ce personnage, aussi diplomate qu'il puisse être, ce personnage, parce qu'il est envoyé par une autorité à laquelle il est loyal, à laquelle il a prêté allégeance, vous savez très bien que ce personnage se doit d'être parfaitement loyal à la politique de son pays, aux directives de son gouvernement, de son président. Et une fois en réunion privée avec vous, à l'Élysée, autour d'une tasse de café, il ne va certainement pas vous dire à ce moment-là, « Bon, je sais que mon pays a telle ou telle position sur tel ou tel point de politique étrangère, mais bon, moi je suis là pour proposer de nouveaux accords, des nouveaux traités que j'ai imaginés dans l'avion en venant. » Vous savez très bien qu'il ne va pas faire ça, ce serait absurde. Et de la même façon dans le texte, il serait absurde que Jésus vienne pour abolir, pour annuler, pour détricoter tout ce que Dieu a déjà révélé au fil des siècles à son peuple et qui est contenu dans l'Ancien Testament, dans la loi et les prophètes. Ce serait absurde parce qu'on sait déjà, à ce stade du récit de Matthieu, on sait déjà, d'après ce qui a précédé dans les chapitres précédents, que Jésus est le Messie qui a été envoyé par Dieu, conformément à ses promesses, à des promesses millénaires, le Messie envoyé par Dieu pour sauver son peuple et pour rétablir son royaume sur la terre, pas pour fonder une nouvelle religion. Jésus ne vient pas en opposition avec ce qui a déjà été révélé, vous voyez ? Mais il vient dans la continuité de ce qui a déjà été révélé. Et donc ces quelques versets, 17 à 20, à ce moment de son discours, de cette prédication de Jésus, ces quelques versets en réalité devraient couler de source. Jésus est en train de souligner quelque chose qui devrait nous paraître en fait comme une évidence. Jésus confirme la validité des exigences morales de l'Ancien Testament. Et déjà ce premier point tord le cou à certaines idées reçues, non ? Concernant le Dieu de Jésus qui n'est pas vraiment le même que le Dieu de l'Ancien Testament. Jésus, il est en train de tordre le cou à ses idées reçues ici. Jésus n'est pas contre la morale. Bien au contraire, il n'est pas contre la morale dans ce texte. La morale biblique, d'après Jésus, a vocation d'être enseignée et d'être pratiquée par ceux qui veulent le suivre. Alors je vous rassure, hein, c'est pas là tout l'enseignement de Jésus. D'accord ? Et on va le voir ça d'ailleurs dans quelques instants, à condition que vous ne partiez pas en claquant la porte avant la fin de la prédication. Mais ce premier point devrait au moins, à ce stade, nous inciter à notre tour à voir d'un œil positif les commandements moraux que Dieu place devant nous et qu'on trouve notamment dans l'Ancien Testament. Pas à les regarder d'un œil méfiant ou à contre-cœur, en râlant, en rouspétant, mais allez voir d'un œil positif ces commandements. À commencer, bien sûr, par les 10 commandements, qui sont un petit peu ce sommaire de la loi, ce résumé de la loi morale de Dieu. Nous devons au moins, à cause de ce que dit Jésus ici, au moins en tant que chrétiens, si nous voulons porter ce nom, nous devons au moins nous y intéresser, et peut-être même y trouver une certaine joie, un certain plaisir dans ces commandements. Comme le psalmiste qui dit « faire ses délices des prescriptions de Dieu ». Est-ce que vous faites vos délices des commandements de Dieu? Est-ce que vous faites vos délices de la morale biblique? Mais regardons la suite du texte. Et la deuxième chose qu'on est amené à comprendre à travers ce texte, à partir du verset 21 cette fois, c'est que ceux qui veulent suivre Jésus doivent faire encore mieux qu'obéir à la lettre de la loi. Ils doivent faire encore mieux qu'obéir à la lettre de la loi. Ils doivent faire encore mieux qu'obéir à la loi à la lettre. Vous avez suivi ? On a ici un passage assez long, hein, 27 versets, versets 21 à 47, un passage très riche pour ce qui concerne l'éthique chrétienne, un passage auquel il est souvent fait référence en réalité dans le domaine de l'éthique chrétienne, un passage qui mériterait de faire l'objet d'au moins 5 ou 6 prédications différentes en réalité. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce passage, si on essaye de voir l'ensemble, si on essaye de synthétiser, de résumer, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Jésus, au verset 20, vient juste de mettre ses auditeurs devant une exigence morale extraordinaire. Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire à celle des gens qui passent leur temps à apprendre par cœur les commandements de Dieu et à les mettre en pratique, ils en ont fait leur métier. Si votre justice n'est pas supérieure à la leur, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans son royaume. Et juste après avoir souligné cette exigence, avoir placé cette exigence morale extraordinaire devant ses auditeurs, maintenant, Jésus va illustrer son propos en proposant six exemples pratiques. Et le but de ces exemples est de montrer en quoi la justice des disciples de Jésus devrait être encore meilleure que celle des spécialistes de la morale, que sont à cette époque-là les scribes et les pharisiens. Alors, les six exemples qu'il donne sont présentés selon le même motif, en trois parties. Il y a un parallélisme et un motif qui se répète, vous l'avez remarqué sans doute quand on a lu le passage. Premièrement, Jésus fait référence à la pratique d'un précepte de l'Ancien Testament, en employant souvent cette expression « vous avez entendu qu'il a été dit ». Première partie. Deuxième partie, ensuite Jésus présente à son tour un précepte qui complète en quelque sorte celui qu'il vient de citer. Or, moi je vous dis, je préfère or que mais, parce que comme on va le voir, Jésus n'est pas en train d'opposer deux lois différentes, il est en train de compléter. Or, moi je vous dis, donc il présente à son tour un précepte qui complète celui qu'il vient de citer, et troisièmement, Jésus en tire des applications pratiques, tantôt implicites, tantôt explicites, sous la forme d'impératifs parfois. Fais ceci, ne fais pas cela. C'est ce qu'on constate dans ces six exemples. C'est que Jésus ne s'oppose pas, à aucun moment, il ne s'oppose aux préceptes de l'Ancien Testament. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'en montrer la pleine application. Autrement dit, comme je le disais, Jésus ne met pas en opposition deux lois, celle de l'Ancien Testament et la sienne, mais il met en opposition deux façons de mettre en pratique la loi. La première, qui consiste à faire le minimum, à obéir donc à la lettre de la loi, à faire le minimum syndical. La deuxième façon consistant à faire au contraire le maximum, à obéir donc à la lettre, mais en plus à l'esprit de la loi. Et donc, la loi interdit le meurtre. Le minimum consiste à ne pas assassiner les gens qu'on n'aime pas. Le maximum consiste, d'après Jésus, à rechercher activement et prioritairement la paix et la bonne entente avec son prochain et la réconciliation avec les gens qu'on a offensés. La loi interdit l'adultère. Deuxième exemple, le minimum consiste à ne pas coucher avec la femme que l'on convoite dans son cœur mais qui est mariée avec quelqu'un d'autre. Minimum syndical. Le maximum consiste à mettre tous les moyens possibles en œuvre pour éradiquer de son cœur la convoitise sexuelle, parfois au prix de grands sacrifices. Qu'il est en train de dire ici, versets 27 à 30. Troisième exemple, la loi prévoit que la femme répudiée soit juridiquement protégée. C'est la loi dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Le minimum consiste donc à assurer une juste répartition des biens en cas de divorce. Mais le maximum consiste à faire tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas divorcer, mais plutôt pour se réconcilier avec son conjoint et pour sauvegarder ce lien précieux aux yeux de Dieu qu'est le mariage. Quatrième exemple, la loi interdit de rompre un serment. Le minimum consiste à tenir sa parole quand on a prêté serment, et donc à prêter serment le moins souvent possible. Le maximum consiste à considérer tous nos oui et tous nos non comme des engagements solennels et à vivre dans une totale honnêteté en tenant toujours parole. Cinquième exemple, la loi prévoit de limiter la rétribution d'un crime à une peine proportionnelle au crime. Le minimum consiste donc à ne pas dépasser cette limite quand on se venge du méchant qui nous a fait du mal. Le maximum, selon l'esprit de la loi, consiste à ne pas se venger du méchant, mais plutôt à renoncer à soi-même et à aimer de manière sacrificielle en retour de l'offense. Et puis le sixième et dernier exemple que Jésus propose ici, la loi oblige à aimer son prochain. Le minimum consiste à être agréable, donc, avec son prochain, mais à être désagréable avec ceux qui nous sont moins proches et qui nous déplaisent. Mais le maximum consiste à aimer tous les hommes, sans discrimination, ceux qui nous sont proches, ceux qui nous sont moins proches, à les bénir, à leur faire du bien et à prier pour eux, pour reprendre les expressions de Jésus ici. Donc vous voyez, à travers tous ces exemples que Jésus propose, Jésus n'annule pas la loi de l'Ancien Testament. Il n'est pas en train de détricoter ce que Dieu a révélé à travers Moïse et à travers les prophètes. Mais il en souligne plutôt la pleine application. Il en corrige parfois une mauvaise application. Il en souligne donc la pleine application conforme à la fois à la lettre de la loi, mais en plus à l'esprit de la loi. Jésus ne s'oppose donc pas à la loi, mais il la complète. Ce qui est un des sens, en fait, du mot « accomplir » qu'on a au verset 17. Je vous avais dit qu'on reviendrait à cela. Quand Jésus dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Ne pensez pas que je sois venu détricoter, défaire ce que Dieu a révélé. » Non, je ne suis pas venu défaire ce que Dieu a révélé. Je suis venu accomplir, compléter. Vous voyez ? C'est comme si vous achetiez un ordinateur. Je parle en connaissance de cause un peu. C'est comme si vous vous achetiez un ordinateur ultra performant. Vraiment le dernier truc sorti de chez Apple, un truc mais super performant, il n'y a pas mieux sur le marché. Et il y a un mode d'emploi qui vient avec l'ordinateur, mais c'est un mode d'emploi qui ne vous explique que les bases finalement. Comment allumer l'ordi, comment configurer votre boîte à email, comment ouvrir un document, etc. Et comme vous, personnellement, comme moi d'ailleurs, vous ne vous y connaissez pas beaucoup en informatique, alors avec cette super machine, vous allez faire simplement un usage minimum de cette machine qui est posée là sur votre bureau et que vous allumez tous les matins. C'est un usage fonctionnel, c'est un bon usage, ça sert, c'est bien, mais c'est le minimum. Mais un jour, il y a Nico qui débarque chez vous, ou Christophe, ou Thierry, enfin des spécialistes de l'informatique, qui débarquent chez vous un jour, et qui vous explique, et ben, d'abord il est ébahi par la machine extraordinaire que vous avez chez vous, parce qu'il comprend tout ce qu'elle peut faire, et il va vous expliquer toutes les fonctionnalités extraordinaires de votre ordi, toutes ces fonctionnalités en fait qui vont vous permettre d'augmenter votre productivité et d'améliorer la qualité de votre travail. Il vous explique tout ça, Nico, mais il ne démonte pas votre machine. Il ne va pas trafiquer la machine, il ne va pas déprogrammer des trucs, il a simplement complété en quelque sorte le mode d'emploi. Où il a complété en quelque sorte votre compréhension du fonctionnement de cette machine, qui reste la même. Il n'est pas venu abolir la machine, mais l'accomplir en quelque sorte, vous voyez. Et donc Jésus fait un peu la même chose ici avec la loi de l'Ancien Testament. Cette loi, elle est bonne, elle est même excellente, elle est valide, mais Jésus l'accomplit, c'est-à-dire qu'il la complète ou il en complète notre compréhension. Pour que nous voyions mieux sa portée, qui est sans doute bien plus radicale en fait que nous le pensions au départ. Bien plus radicale même que les scribes et les pharisiens se l'imaginaient. Vous voyez ? ceux qui veulent suivre Jésus doivent faire encore mieux qu'obéir à la lettre de la loi, ou mieux qu'obéir à la loi à la lettre. Ils doivent faire encore mieux. Et qu'est-ce que cette exigence-là doit susciter en nous? Eh bien, la moindre des choses, c'est au moins de reconnaître qu'avec Jésus, d'après ce texte, il n'y a pas moins de morale. Il y a plus de morale. Il n'y a pas moins de morale avec Jésus, il y a plus de morale. Il n'y a pas d'assouplissement avec Jésus. Il y a plutôt, on a l'impression, un durcissement. Jésus se présente ici vraiment comme un champion de la morale. D'accord ? Pas comme un révolutionnaire, anarchiste qui remet tout en question. Non, bien au contraire, un champion de la morale. Et pour la plupart des gens aujourd'hui dans notre société, ben ça ne fait pas de Jésus quelqu'un de très attirant. Et à vrai dire, c'est normal. Et d'ailleurs, si nous comprenons bien tout ce que Jésus est en train de dire ici, personne en fait, pas même les plus tradis et les plus légalistes d'entre nous, personne en fait, ne devrait se sentir confortable devant ce discours de Jésus. Personne ne devrait dire « Yes ! C'est exactement ce que je pense !» Et pourquoi ? Comme je l'ai dit, parce que Jésus est en train de décrire ici une justice morale supérieure à celle des meilleurs moralistes de son époque. Il n'y avait pas mieux qu'à son époque. Personne, ni les scribes, ni les pharisiens, ni les pasteurs, ni les prêtres, ni les moines, ni les profs de théologie, ni les religieux ou les religieuses les plus disciplinés, ni même le pape, ne peut lire ce passage et se dire « Ah ben c'est bon, j'ai ma place dans le royaume de Jésus !» Personne ne peut dire ça. En fait, Jésus est en train d'ébranler toute autosuffisance et de mettre finalement tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Ce qui nous amène au dernier point. Et la troisième et dernière chose qu'on est amené à comprendre à travers ce texte, je pense, c'est justement que Jésus fixe à ses disciples un objectif qu'ils ne peuvent pas atteindre par eux-mêmes. Jésus fixe à ses disciples un objectif qu'ils ne peuvent pas atteindre par eux-mêmes. Peut-être que vous l'aviez déjà compris à ce stade du texte et de la prédication. Mais le verset 48, le dernier verset de ce chapitre, finalement, ce verset met les points sur les « i ». À quel niveau d'intégrité morale Jésus appelle-t-il les croyants donc ? Verset 48. À la perfection, tout simplement. J'avais dit que c'est simple comme texte. Et quoi de plus logique, puisque Jésus parle ici du fait d'avoir une place dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans le royaume des dieux, c'est-à-dire auprès de Dieu. Quoi de plus logique que d'exiger la perfection pour se présenter devant Dieu, pour être intégré dans sa famille, dans son royaume. Appartenir au royaume des cieux, royaume céleste, signifie avoir Dieu pour Père céleste. Vous voyez le lien avec le royaume des cieux dans ce texte. Et donc, puisque ce Père céleste est lui-même moralement parfait, si on veut faire partie de son royaume céleste, royaume des cieux, il faut à notre tour être moralement parfait. Simple, logique, radical, mais déconcertant, non ? C'est un peu déconcertant. En fait, Jésus, ici, il est en train d'imiter une phrase de la loi de l'Ancien Testament qui apparaît à plusieurs reprises dans le livre du Lévitique, qui est reprise d'ailleurs par l'apôtre Pierre dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Un texte où Dieu dit à son peuple ceci « Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Donc finalement, Jésus ne fait ici que rappeler quel est le projet de Dieu pour son peuple. Il en a souligné le caractère radical et finalement, en conclusion, il nous pousse à constater que cet objectif dépasse nos capacités. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le projet de Dieu pour son peuple, confirmé par Jésus ici. C'est son exigence, c'est la condition sine qua non de l'appartenance à son royaume. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est pas juste de la rhétorique, c'est pas juste une hyperbole, une figure de style. C'est vraiment l'objectif que Dieu fixe aux croyants. Mais c'est déconcertant parce que à ce stade de l'histoire, à ce stade du récit de l'évangile selon Matthieu, on a donc l'objectif, mais on n'a pas l'itinéraire. On a la destination, mais on n'a pas le chemin pour y arriver. C'est comme si je vous montrais une destination quelconque en photo ce soir et que je vous dise « Rendez-vous là-bas la semaine prochaine. » Hop. Mais je ne vous dis pas comment y aller, je ne vous donne pas l'itinéraire, je ne vous livre pas l'itinéraire qu'on peut s'imprimer très facilement aujourd'hui avec Google Maps, etc. Non, rien, juste une photo. Vous voyez, c'est là qu'on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, à la semaine prochaine. Vous seriez un peu déconcerté. Et donc la question qui se pose à ce stade du récit, c'est quand même la suivante. Est-ce que j'ai envie d'y aller ? Est-ce que j'ai envie d'y aller ? Est-ce que je m'intéresse suffisamment à Dieu et à Jésus et à son royaume et à ce que représente son royaume, à savoir, on l'a vu la dernière fois, la consolation, la justice, la paix, la miséricorde, bref, la vie avec Dieu. Est-ce que je m'intéresse suffisamment à ces choses pour vouloir y aller ? Est-ce que je m'intéresse à la vie éternelle, à passer le restant de mes jours, c'est-à-dire l'éternité, avec Dieu, dans sa présence? Est-ce que c'est ce que je désire? Est-ce que je le désire suffisamment pour vraiment vouloir y aller? Est-ce que quand Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait », est-ce que j'ai vraiment envie de l'être parfait comme lui, il est parfait? Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans l'intimité avec ce Dieu parfait dans son royaume? Vous savez, à ce stade du discours de Jésus, il est en train de prêcher, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui commencent à partir. Peut-être des gens qui se lèvent, qui disent « Bon, on s'en va, on rentre à la maison, c'est pas ce que j'espérais finalement. Je suis un peu déçu. » Mais ceux qui sont déconcertés et qui restent, et qui continuent d'écouter Jésus, ils vont l'entendre dire un peu plus loin dans la même prédication. Ils vont l'entendre dire ceci. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses. Et encore un peu plus loin dans la même prédication. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Et ceux qui arrivaient à la fin de la prédication de Jésus ont été remplis de cette espérance. Ceux qui vont continuer ensuite à s'intéresser à Jésus et à le suivre, ils vont le voir quelque temps plus tard, ce Jésus, se faire clouer sur une croix, comme un bandit, et ils vont l'entendre pousser un grand cri à l'apogée de son agonie. Et ils vont apprendre, peut-être pas à ce moment précis, mais peut-être un peu plus tard, ils vont apprendre qu'au moment où Jésus a poussé ce grand cri sur la croix, au moment où son esprit a rejoint Dieu, ils vont apprendre qu'à ce moment-là, le voile du temple des Juifs s'est déchiré de haut en bas, ouvrant l'accès une fois pour toutes à l'espace le plus protégé, le plus strictement protégé du temple, qui symbolisait le lieu de la présence spéciale de Dieu. Et ils vont commencer à comprendre des choses à ce moment-là. Ceux qui n'ont pas baissé les bras, ceux qui n'ont pas tourné le dos, qui ne sont pas rentrés chez eux. Et donc dans le texte qui nous intéresse ici, texte qu'on a lu, Jésus fixe un objectif à ses disciples qu'ils ne peuvent atteindre par eux-mêmes. Mais si vous avez envie d'y aller, si vous vous attachez par conséquent, parce que vous avez envie d'y aller, si vous vous attachez au pas de Jésus, à la personne de Jésus, le reste de l'histoire nous apprend par quel itinéraire le peuple de Dieu devient réellement saint et parfait. Cet itinéraire, c'est celui que Jésus emprunte au profit de tous ceux qui lui font confiance. Cet itinéraire que Jésus va emprunter, c'est celui de ses souffrances et de sa mort, où lui, sur la croix, le seul juste, a pris sur lui le châtiment normalement réservé aux injustes que nous sommes. Et Jésus a fait cela pour nous en délivrer, pour nous délivrer de ce châtiment. Mais si nous sommes attachés à Jésus, et si vous êtes attachés à Jésus par la foi aujourd'hui, Jésus, sachez-le, il vous communique tous les mérites de son obéissance, de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection. Tous les mérites que lui-même a gagnés, il vous les communique. Il vous les communique si vous êtes attaché à lui par la foi. Conformément donc au projet de Dieu pour son peuple et en vertu de Jésus, en vertu de ce que Jésus a fait, Dieu nous pardonne nos péchés si nous sommes attachés à lui par la foi. Il nous purifie, il nous rend saints comme lui-même, comme Dieu est saint, et il nous rend acceptable, dans sa présence. Il écrit même sa loi morale dans notre cœur. Lui, le champion de la morale, il l'écrit dans notre cœur, et il nous remplit de son esprit qui nous incite ensuite à le suivre et à lui obéir. Même si notre obéissance ici-bas, elle est progressive, elle est hésitante, c'est deux pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière, que sais-je encore, elle est hésitante et progressive, mais ce qui est sûr, c'est que si nous sommes attachés à Jésus, nous sommes déjà moralement parfaits aux yeux de Dieu. Parce que la perfection morale de Jésus lui-même nous a été imputée. Lui qui est parfait, comme son Père céleste est parfait. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par une seule offrande, Jésus a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et l'auteur cite juste après cette promesse de l'Ancien Testament, pour montrer que Jésus a agi conformément au plan de Dieu, annoncé déjà depuis des millénaires, hein, depuis des siècles en tout cas. Cette promesse d'Ancien Testament où il est dit « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » C'est ce qu'on a vu dans ce texte, non? D'abord que Jésus confirme la validité des exigences morales de l'Ancien Testament. Jésus promeut la loi. Ensuite que ceux qui veulent suivre Jésus doivent faire encore mieux qu'obéir à la lettre de la loi. Jésus complète la loi. Et troisièmement, Jésus fixe un objectif à ses disciples qu'ils ne peuvent atteindre par eux-mêmes, parce qu'en fin de compte, c'est Jésus qui réalise la loi au profit des croyants. Pour conclure rapidement, ce texte doit donc inspirer en nous principalement une grande humilité. On ne peut pas la ramener, ou se la ramener, devant Dieu, n'est-ce pas ? Jésus ici a mis tout le monde d'accord. Toutes ces exigences sont valides, mais personne n'est à la hauteur. La morale biblique est bonne et nous devons l'enseigner et la pratiquer, mais notre justice, réalisée par nos propres capacités, ne sera jamais suffisante pour que nous méritions notre place dans le royaume de Jésus. Mais Jésus, le Fils éternel de Dieu, qui a dit aux paralytiques « Lève-toi et marche », il dit aux infirmes spirituels que nous sommes, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et Jésus, en tant que Fils de Dieu, a la puissance d'accomplir ce qu'il ordonne, non ? Alors les protestants, ils sont cool, ils ont une lecture beaucoup plus libre que les autres de la morale biblique, c'est ça ? Le Dieu de Jésus n'est pas le Dieu du moralisme rigide de l'Ancien Testament, c'est ça ? Ou bien, la grâce de Dieu, c'est trop facile, c'est la porte ouverte à tous les comportements. Rien de tout ça. Rien de tout ça d'après la Bible. Jésus appelle les croyants à une intégrité morale, surnaturelle, qu'il réalise en nous une fois pour toutes aux yeux de Dieu, en vertu de sa mort et de sa résurrection. Et une intégrité morale surnaturelle vers laquelle, ici-bas, il nous fait tendre sous l'effet de son Saint-Esprit qu'il a déversé en nous. Amen.